le magazine des Nations Unies.
Bonjour à toutes et à tous. Tout de suite, les principaux titres de cette édition du magazine des Nations Unies. La 77e session de l'Assemblée générale de l'ONU s'est ouverte cette semaine à New York. Plusieurs chefs d'État ont pris la parole, dont celui de la République démocratique du Congo. Dans son discours prononcé le mardi 20 septembre, Félix-Antoine Tshisekedi a une fois encore accusé le Rwanda d'agression contre la RDC. Il a demandé au Conseil de sécurité de publier et d'examiner le dernier rapport des experts onusiens sur cette agression. Vous recevrez dans cette édition un extrait du président en congolais. Après New York, nous reviendrons ici à Kinshasa où la MONUSCO a associé plus de 300 jeunes de la capitale à la célébration de la Journée internationale de la paix. Une journée instituée il y a maintenant 40 ans, le 21 septembre de chaque année. Mettre fin au racisme et bâtir la paix, c'est sous ce thème que l'ONU a placé cette journée. Enfin, coopération Allemagne-HCR en RDC. 50 jeunes réfugiés africains ont bénéficié de la bourse d'études d'AFI depuis 2019. L'ambassade d'Allemagne à Kinshasa a servi de cadre le 15 septembre dernier à la présentation de 7 de ses boursiers et ont terminé leur cycle de licence dans les différentes disciplines. Témoin de l'événement, le ministre congolais de l'enseignement supérieur universitaire ainsi que la représentante du HCR en République démocratique du Congo. C'est donc là le menu de cette édition du magazine des Nations Unies. Merci de votre attention.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Mesdames et messieurs, encore une fois, bonjour et merci de nous accueillir chez vous. 77e Assemblée générale de l'ONU à New York, nous revenons encore sur le discours du président congolais Félix Tshisekedi, notamment dans son volet sécuritaire pour la RDC. Concernant l'agression de son pays par le Rwanda, Félix Tshisekedi a solennellement exprimé la position de son gouvernement de demander au Conseil de sécurité de publier et d'examiner avec diligence le dernier rapport des experts de l'ONU et d'en tirer toutes les conséquences. Le chef de l'État de la RDC a souligné que cette demande contribuerait a levé toutes les suspicions sur l'impartialité de l'ONU et la complicité de certains de ses membres. Il a aussi évoqué la question de la réévaluation du plan de retrait progressif de la MONUSCO. Un extrait de propos de Félix Tshisekedi recueilli par Alain Hirung, l'envoyé spécial de Radio Kapi à New York.
Le gouvernement congolais réitère sa demande au président du Conseil de sécurité de distribuer officiellement aux membres du Conseil le dernier rapport des experts de l'ONU sur la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo et de le faire examiner avec diligence par lui afin d'en tirer toutes les conséquences qui s'imposent sur le plan du droit, de la paix et de la sécurité internationale. Il y va de l'image et de la crédibilité de notre organisation. Procéder autrement serait, d'une part, encourager le Rwanda à poursuivre son agression, ses crimes de guerre et ses crimes contre l'humanité en République démocratique du Congo, et d'autre part, nourrir davantage la suspicion légitime des Congolais sur l'impartialité de l'ONU, ainsi que la complicité de certains de ses membres dans ces crimes. C'est pour mettre fin à cette suspicion et dissiper l'ambiguïté de certaines positions du Conseil de sécurité sur la crise sécuritaire à l'est de la RDC, ambiguïté qui excède la population congolaise et exacerbe la tension entre elle et la mission de l'ONU pour la stabilisation du Congo, la MONUSCO, que le gouvernement de mon pays a demandé la réévaluation du plan de retrait progressif et responsable de cette mission. Cette démarche d'ajustement est exigée par le constat unanime, même au niveau le plus élevé de notre organisation, des faiblesses regrettables de la MONUSCO, ce qui affecte certainement l'efficacité et la légitimité de l'action de l'ONU en République démocratique du Congo. La réévaluation du plan de retrait de la MONUSCO ne peut par conséquent nullement remettre en cause les relations entre mon pays et notre organisation.
Revenons ici à Kinshasa avec la MONUSCO à travers sa division de la communication stratégique et de l'information. La mission de l'ONU en RDC a célébré la journée internationale de la paix, instituée il y a 40 ans, le 15 septembre. C'est avec plus de 300 jeunes, notamment des organisations étudiantines, que la MONUSCO a organisé des manifestations autour de cet événement, placé cette année sous le thème « Mettre fin au racisme, bâtir la paix ». Dans le contexte de la RDC, les jeunes Congolais ont été conviés à une session de formation et d'échange autour de ce thème, la contribution de la jeunesse à la lutte contre les discours de haine, la désinformation et la manipulation dans la société congolaise. À l'ouverture de la session et au nom de la représentante spéciale Bintou Keïta, le directeur de la division de la communication stratégique et de l'information de la MONUSCO, Christophe Gabriel Eloi Boulirak, s'est adressé à cette jeunesse. Les propos de Christophe Boulirak au micro d'Honoré Missinga Kalala.
Voilà ce qu'a dit votre président, son Excellence, Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, devant l'Assemblée générale des Nations unies. Je le cite. « L'État congolais et la société civile congolaise ne permettront jamais à quiconque de tenir le discours de la haine tribale, ethnique et raciale ou xénophobe dans notre pays. La Constitution de la République et les lois congolaises interdisent un tel discours et le sanctionnent sévèrement. » C'était les propos de votre président il y a quelques heures seulement, devant le monde entier. Alors, ce que je voudrais juste vous dire, c'est que on a tous une responsabilité énorme. On est tous les ambassadeurs de la construction de la paix par rapport au discours de haine. Ça, c'est mon téléphone, et comme vous, je reçois tous les jours des contenus. L'une des premières responsabilités que l'on a, à mon avis, c'est lorsque vous recevez un contenu, c'est de vous interroger. Oh là là, qu'est-ce que je fais là? Je l'envoie ou je ne l'envoie pas? En fait, c'est déjà très important cette décision, ce qui montre bien que tout ça fait appel à notre jugement en permanence, au-delà de nos convictions politiques très, très légitimes. Qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on veut pour cette société congolaise? Est-ce qu'on veut une société où les discours de haine circulent, foisonnent allègrement, sans aucune voix pour s'en indigner? Sans aucune voix pour les analyser, sans aucune voix pour finalement réfléchir à leur construction, à leurs conséquences, et réfléchir aussi, si on veut la paix, à la façon de les déconstruire. C'est déjà pour moi un premier niveau important. Ça me paraît particulièrement pertinent si nous entrons dans une dynamique préélectorale. Vous savez que ça se polarise. Et ça me paraît particulièrement pertinent de parler des discours de haine, d'échanger, de comprendre ensemble et de voir comment on peut travailler sur ça ensemble dans un contexte médiatique congolais qui change et qui va continuer de changer très très vite par rapport à l'accès notamment à Internet.
Autre sujet de ce magazine, 50 jeunes réfugiés africains vivant en RDC ont bénéficié de la bourse d'études d'AFI depuis 2019 en République démocratique du Congo. Sept de ces jeunes ont terminé leur cycle de licence dans différentes disciplines. Ils ont été présentés jeudi 15 septembre à l'ambassade d'Allemagne à Kinshasa. Le ministre congolais de l'enseignement supérieur et universitaire, Moindo Onzangi, et la représentante du HCR, Madame Angèle Dikongwe Atangana, étaient présents. Pour cette dernière, cette expérience devrait se poursuivre pour le bien des bénéficiaires et aussi pour le bien du pays d'accueil. Les propos de Madame Angèle Dikongwe recueillis encore une fois par Honoré Missinga Kalala.
Nous devons continuer, nous devons multiplier le nombre de ceux qui bénéficient de cette bourse-là parce que pour moi, c'est non seulement leur protection, mais c'est aussi leur futur, leur solution durable et la prévention de tout ce qui crée ces soucis-là. Des gens bien éduqués, des gens bien formés seront loin des groupes armés qui les engagent de façon négative et qui fomentent des difficultés, la guerre à l'Est et tout ce que nous savons. Même un lauréat, c'est un de moins dans des soucis, c'est un de plus pour contribuer à la prospérité du pays qu'il a accueilli. Parce qu'il faut bien le comprendre, les réfugiés, ce n'est pas une charge. Les réfugiés deviennent une charge quand on ne les inclut pas dans la communauté qui les accueille.
La bourse d'AFI est un programme initié et financé par le gouvernement allemand. Elle permet à des réfugiés du monde entier de poursuivre des études supérieures. Créé en 1992, ce programme a déjà permis à plus de 13 500 réfugiés d'étudier dans des universités de leur pays et d'accueil.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
À l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la démocratie, la 15e de l'histoire de l'ONU, le directeur du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, Abdulaziz Thioye, a dressé un bilan mitigé de la démocratie en RDC, caractérisé certes par quelques avancées comme il l'a reconnu lui-même. Il a également parlé des actions que mène son institution pour la promotion de la démocratie au Congo démocratique. Abdulaziz Thioye s'entretient ici avec Jeff Ngoy.
Bonjour Abdulaziz Thioye.
Bonjour.
À l'occasion de la célébration de la 15e année de la Déclaration universelle proclamant la démocratie dans le monde par les Nations Unies, j'ai affaire au directeur du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Vous êtes le défenseur des droits et libertés fondamentaux. Que veut dire démocratie?
Comme vous l'avez dit, le 15 septembre 1997, la journée du 15 septembre est consacrée comme journée internationale de la démocratie. C'est une occasion, je pense, très très importante de s'interroger sur la démocratie et de s'arrêter un moment pour réfléchir et regarder le fonctionnement de nos sociétés qui sont prétendument démocratiques. Donc, parler de la démocratie, il revient à parler de ce que la célèbre phrase d'Abraham Lincoln, le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Dire le gouvernement par le peuple souverain qui décide de sa vision, de son système de gouvernement, qui décide de sa vie économique et qui décide également de sa sécurité ainsi que de la gestion de sa vie quotidienne. Donc, vous pouvez comprendre que la démocratie, on la distingue de la monarchie, évidemment, qui est un système basé sur la volonté d'un individu et un système de transmission du pouvoir sur une lignée qui est beaucoup plus dynastique et sans égalité des chances. Donc la démocratie, c'est la primauté du droit sur la volonté des individus ou d'un individu. C'est également le respect des droits de l'homme. Et nous, en tant que bureau des droits de l'homme, c'est l'élément pour nous le plus important. C'est l'interdépendance qui existe entre la démocratie et les droits de l'homme. Le respect de la liberté de la presse, la possibilité pour le peuple de se choisir ses représentants ou d'agir directement. Mais dans la majorité des systèmes que nous connaissons, des systèmes politiques qui existent dans le monde en général, il s'agit de démocratie représentative. C'est-à-dire le peuple qui ne peut pas décider compte tenu du nombre, mais qui décide de se choisir des représentants pour décider de la conduite au quotidien de la vie publique et de tout ce qui relève de son bien-être, de sa sécurité et ainsi que de ses droits et de ses devoirs.
À ces jours, peut-on dire qu'il y a eu des avancées positives, des avancées considérables que le BCNUDH peut déceler concernant notre système démocratique?
Des avancées, oui. Je pense que si nous en sommes aujourd'hui à discuter ouvertement du respect ou non des droits et libertés, c'est parce qu'évidemment, il y a une liberté d'expression. Donc c'est ça aussi une caractéristique de la démocratie, la liberté de la presse. Je pense, après les élections qui ont amené l'alternance à la tête de ce pays, il y a eu une ouverture de l'espace politique. Nous avons vu la possibilité de la société civile pour les partis politiques de définitivement pouvoir manifester librement. Il y a eu par la suite des velléités de restriction qui ont refait surface et qui ont fait à un moment donné craindre effectivement d'un retour en arrière. Les craintes sont toujours là, mais évidemment on n'est pas à la situation que nous avons connue il y a quelques années, notamment entre 2016 et 2017, où de façon très claire, il y a eu une répression sanglante des manifestations qui étaient organisées sur la voie publique. Pour l'heure, sans trop décerner un satisfait, on peut dire qu'il y a un bilan plus ou moins mitigé des avancées qui méritent d'être consolidées et pour d'autres sur des aspects sur lesquels il faut nécessairement faire des progrès. Et dans cela, il y a des attentes assez fortes.
Planifier une action et renforcer la démocratie, c'est le thème de cette 15e année. Quelles sont les actions que le BCNUDH planifie concernant la promotion de la démocratie?
Nous travaillons beaucoup, nous sommes dans un rôle de comme bureau du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, qui, comme vous le savez, est l'entité des Nations Unies en charge de tout ce qui est coopération technique pour accompagner les États à être plus ou moins en conformité avec leurs engagements, pour ratifier une convention. Nous devons vous aider techniquement à mettre en œuvre les dispositions de la convention. Donc, pas seulement les États, il nous faut travailler avec le Parlement. Comme vous le savez, nous travaillons beaucoup avec les autorités, qui sont les détenteurs d'obligations, c'est-à-dire quand l'État ratifie une convention et décide d'accorder les bénéfices des droits reconnus dans la convention à ses citoyens, c'est l'État qui a l'obligation de réaliser cela. Donc, nous sommes du côté de la redevabilité, c'est-à-dire aider l'État à véritablement être à niveau dans la satisfaction de ses obligations et leur mise en œuvre. Nous soutenons également le côté des bénéficiaires, ceux qui détiennent des droits citoyens, pas les citoyens individuellement, mais à travers les structures qui les représentent. La société civile, dont de renforcer les capacités de manière à les accompagner à pouvoir eux-mêmes développer un plaidoyer, un dialogue qui leur permette de s'engager avec les autorités, ce qu'on appelle augmenter les capacités de réclamation.
La 15e année de la proclamation universelle de la démocratie par les Nations Unies coïncide avec la crise de la COVID-19 qui a presque entraîné des défis à l'échelle mondiale, des défis majeurs sur le plan politique, sur le plan social et juridique. Comment peut-on renforcer la résilience démocratique face aux prochaines crises?
Je pense que la COVID-19 nous a pris deux bonnes années. On ne s'en rend pas compte que beaucoup de choses se sont passées. La COVID-19 a favorisé quelque peu une crise du multilatéralisme. Certains États se sont refermés sur eux-mêmes. Les disparités et les inégalités sociales et économiques se sont accentuées, ce qui est aussi un élément non négligeable. Et la COVID-19 aussi a été une occasion pour certains pays, certains régimes, de restreindre davantage les droits et libertés. On l'a vu, et d'ailleurs la haute commissaire a beaucoup insisté là-dessus pour rappeler à certains États la nécessité de s'abstenir dans le contexte, sous prétexte de lutter contre la pandémie, de restreindre les droits et libertés. C'est ce qu'on a vu dans beaucoup de pays où les gens étaient confinés, ne pouvaient pas sortir. Les manifestations étaient interdites, certaines activités, beaucoup d'atteintes à la vie privée sous prétexte de confinement. C'est très très compliqué et également une explosion des violences domestiques. Toutes les leçons apprises de la COVID-19, je pense, doivent servir pour faire différemment. Et ça nous ramène encore une fois sur l'interdépendance. Un système démocratique est un système aussi qui crée les conditions pour que ses citoyens puissent jouir de tous leurs droits, civils et politiques, mais droits économiques, sociaux et culturels. Et en cela, pour le faire, il faut créer un environnement qui permette une expression libre et démocratique.
Abdulaziz Choy, je vous remercie.
Mon nouvel an plus bref ouvrira au Sud Kivu une centaine de jeunes filles et jeunes garçons formés sur différents thèmes dont le leadership, l'entrepreneuriat, le bénévolat et la responsabilité civique. Une formation assurée par l'USAID à travers le projet dénommé Elima Nijibuya USAID, un projet mis en œuvre par une ONG locale, ABFEC, Action Congo ASBL. Une première série de formations a duré 6 jours et s'est clôturée le samedi 17 septembre 2022. Du Sud Kivu, direction le Nord Kivu, plus de 1800 enfants touchés par la malnutrition sévère et aiguë à Walikale et Itebero ont été pris en charge au premier semestre de cette année par le Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF. Selon le chargé du projet de résilience PAM FAO UNICEF, volet nutrition à l'UNICEF Goma, Jean-Jean Mukamba, 18 structures de santé ont été appuyées dans le cadre de cette prise en charge. Enfin, retour à New York, en marge de la 77e Assemblée générale des Nations Unies, le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu un tête-à-tête avec le secrétaire général Antonio Guterres. C'était mardi 20 septembre 2022. La rencontre entre les deux personnalités s'est déroulée dans les bureaux du patron de l'ONU au 27e niveau du Palais de Verre. Rien n'a filtré de ces échanges.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
L'invité de ce dimanche, c'est Fortuna Marunga de l'Organisation internationale pour les migrations OIM Sud Kivu. Des acteurs de la sécurité et de la justice criminelle dans la lutte contre les trafics illicites et minerais étaient en formation la semaine dernière à Bukavu, une formation de 5 jours assurée par l'OIM et financée par le Département d'État des États-Unis pour la lutte contre les stupéfiants et l'application de loi. C'est à la suite de cette session que Fortuna Marunga a répondu aux questions de Jean Kassami.
Monsieur Fortuna Marunga, bonjour.
Bonjour.
Une formation des acteurs de la sécurité et de la justice criminelle dans la lutte contre les trafics illicites de minerais. Pourquoi faire ?
Nous organisons cette formation des acteurs de la sécurité et de la justice criminelle dans la lutte contre les trafics illicites de minerais et les violations des droits de l'homme dans le site minier. D'abord, c'est pour permettre à tous ces acteurs-là de clarifier les rôles ou les missions des uns et des autres dans la lutte contre le trafic illicite ou la fraude minière. La situation au site Kivu, la fraude minière, fait des manques à gagner au niveau du trésor public, mais aussi au niveau des communautés où le minerai provient. Et donc cette formation va dans le sens de renforcer les institutions provinciales pour le développement d'un commerce responsable de minerais.
L'OIM, en organisant cette formation, s'est-elle basée à un certain nombre de faits?
Exact. En fait, l'OIM soutient les institutions provinciales du site Kivu dans la lutte contre le trafic illicite de minerais, d'autant plus que cet état des choses a été décrié sur la fraude minière, le manque à gagner au niveau du trésor public, mais également cette problématique de gouvernance minière. Elle est beaucoup inquiétante dans la mesure que si le secteur minier n'est pas assaini, ça serait même les sources de violences, les sources de conflits ou les sources de financement des conflits et de toute situation de sécurité. Mais aussi, le pays, la RDC, repose une partie de son économie à travers les ressources naturelles et principalement les ressources minières. Et donc, il est très important d'accompagner l'État, d'accompagner les institutions à assainir le secteur minier pour permettre à ce qu'à travers ce secteur-là, l'État congolais gagne, les communautés riveraines aussi gagnent à travers la redevance, par exemple la redevance minière au niveau des entités décentralisées, et à travers cette redevance-là, des actions de développement peuvent en suivre.
On sait que pour la traçabilité des minerais, ça commence par les puits jusqu'au lieu de vente. À quel endroit précis sont localisés ces acteurs qui suivent aujourd'hui la formation?
D'abord, comme c'est des acteurs de différentes institutions, il y a la police des mines et hydrocarbures qui sont déployés par exemple à Numbi, dans la plaine de la Ruzizi, Katogota et consorts, à Misisi, à Katogota, à Nzibira et consorts. Il y a aussi les inspecteurs miniers, ici des services techniques des mines, SAEMAPE, division de mines, CSC et consorts. Il y a aussi en fait les acteurs autour de ces sites miniers, les coopératives minières, les entités de traitement ou les comptoirs. Et donc, ils viennent de différents coins, de différentes entités, et ils sont là pour suivre la formation en fait de mettre en pratique les notions apprises pour assainir le secteur. Et donc, le projet prend en compte une dimension sécuritaire dans les sites et autour de sites miniers, et aussi une dimension de la gouvernance minière. Donc, la gouvernance sécuritaire qui est là, par le renforcement des mécanismes de sécurité dans et autour de sites miniers, notamment en formant des policiers de mines, notamment en appuyant la mise en place des conseils locaux pour la sécurité de proximité, qui sont des cadres de concertation multi-acteurs pour améliorer une gouvernance sécuritaire avec une approche de police de proximité. Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, c'est notamment la gouvernance minière qui consiste par le renforcement des capacités des agents de l'administration de mines, SAEMAPE, division de mines, l'appui en matériel, mais aussi l'appui à la Commission nationale de lutte contre la fraude minière, la CNLFM, qui est une commission de tous les acteurs étatiques, y compris la société civile, qui ces acteurs-là, à travers la commission, traitent ou définissent des mécanismes pour endiguer la fraude minière ou le trafic illicite de minerais.
Au bout du délai imparti à la formation, vous sortez d'ici avec quel sentiment?
Je suis très ému avec la participation de ces différents acteurs qui sont venus de différents coins de la province et de la manière dont l'interaction dans la salle se passe. Je suis certain que cette formation avait vraiment son pesant d'or. J'ai un sentiment de joie de voir que les différents acteurs qui participent et même les intervenants, il y a eu des intervenants de haut cadre, des responsables au niveau provincial comme la cour d'appel qui vient parler auprès des OPJ, de la procédure, comme l'auditorat, comme aussi les cadres territoriaux qui parlent des plans de sécurité dans les sites miniers. C'était vraiment enchanté et j'ai un sentiment de satisfaction pour cette activité.
Et 20 policières de différentes unités de la police nationale congolaise d'Uvira ont été formées la semaine dernière sur la lutte contre les violences sexuelles et sexistes. Une formation de 3 jours assurée par l'unité de la police des Nations Unies, UNPOL. Dossier signé Fiston Goma.
Les femmes de la PNC Uvira savent désormais faire la différence entre les formes de violence sexuelle et la violence basée sur le genre. Elles ont appris des leçons concernant les preuves à réunir pour des infractions liées aux violences sexuelles. Ces femmes policières ne sont pas épargnées dans leur foyer, tout comme dans leur milieu de travail, de certains cas de violence basés sur le genre. Marie Bourré-Dimpala est agent à la police des circulations routières PCR Uvira.
Nous rencontrons beaucoup de violences basées sur les fonctionnaires femmes policières à travers nos chefs. C'est-à-dire, on a souvent violé nos droits, selon les services rendus dans la police. Parce que nous sommes les femmes, il y a la discrimination entre nous et les hommes. Parce qu'on préfère beaucoup donner les fonctions aux hommes qu'aux femmes. Pas tellement de sexe, mais il y a seulement discrimination. On nous sous-estime par rapport aux hommes. Donc on voit que dans les hommes, il peut être capable de faire quelque chose par rapport à la femme. La formation va nous aider parce que nous sommes vraiment obligés de connaître les différentes formes de discrimination qui se trouvent dans la police pour les dénoncer.
De son côté, la chef de l'unité de la police des Nations Unies est en charge. Le volet violence sexuelle souhaite que cette formation aide les femmes policières à relever plusieurs défis qu'elles rencontrent dans leur milieu de travail. Madame Ndomadi Mélanie.
Si elles sont des victimes, ça peut être harcèlement sexuel. Et ça fait partie de la violence basée sur le genre. Peut-être elle est mariée, l'une d'entre eux, ou bien plusieurs, elles sont mariées et que leur chef, peut-être, elles peuvent subir aussi des harcèlements sexuels. Je les ai fait comprendre quand vous êtes au bureau et que ton chef, en passant, touche tes seins ou il tapote par terre, c'est ça qu'on appelle harcèlement sexuel dans le milieu de travail.
Est-ce que vous allez les aider à dénoncer?
Là, ça dépend de leur consentement. Dans la logique des choses, elles doivent dénoncer parce que ton chef, c'est ton chef direct et racine. Elle ne peut pas t'harceler au bureau. Ça, vraiment, c'est inadmissible.
Le formateur de la PNC revient ici sur l'objectif principal de cette formation, Major Jean-Dédier Kouibonera.
Vous avez compris que nous n'avons que 20 policières ici. Le premier devoir, c'est aller informer à ses collègues. Voilà, nous venons d'une formation. Voilà ce qu'on nous a dit. Aux hommes, nous les demandons aussi d'accompagner les policières, les assister, les respecter aussi dans leur dignité. Quand bien même elles sont femmes, elles ont aussi le droit de prester en tant que telles. On ne doit pas les marginaliser puisqu'elles sont femmes. On ne doit pas les abuser puisqu'elles ont aussi leur foyer qu'elles doivent protéger.
Magazine des Nations Unies. Question aux Nations Unies.
Comment contourner les nombreux défis de financement des bailleurs face à la situation humanitaire complexe et critique dans la province du Nord Kivu? La question a été posée à la chef du sous-bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies par Gabriel Wamenya. Suivons sa réponse.
Ça, c'est une bonne question. Il y a beaucoup de besoins. Si je fais les comparaisons avec les autres pays, je pense qu'on est avec les chances aussi. Au niveau des bureaux de OCHA, il y a des mécanismes qu'on utilise. Il y a les SAF qui vraiment nous appuient cette année. Cette année, déjà, juste au niveau de Nord Kivu, les SAF a donné presque 15 millions. Aussi, on est avec les funds nationaux, pool fund, qu'est-ce qu'on appelle ça. Et ça aussi, au niveau de Nord Kivu, il est donné quelque pas mal l'argent, presque 7 millions, 10 millions déjà. Il y a aussi les limitations au niveau des bailleurs. Et c'est pourquoi, avec l'autorité des coordinateurs humanitaires, on voudrait voir comment vraiment on va avancer les questions de Nexus. Parce que c'est là on va voir comment on va collaborer avec les partenaires développement, paix et humanitaire pour assurer ressource qui est là, on utilise avec le maximum. Donc, on est déjà commencé à parler à ce niveau. On voudrait mobiliser pour voir vraiment, on voudrait voir comment vraiment on va collaborer. C'est pas seulement les développements, mais aussi les autorités.
Le magazine des Nations Unies.
Magazine des Nations Unies. Le magazine des Nations Unies, tout sur les faits saillants des agences du système des Nations Unies. Chaque dimanche à 8h30 et en rediffusion à 19h05.
Retenez ces dates dans vos agendas. 26 septembre, journée internationale pour l'élimination totale des armes nucléaires. Le 27 septembre, journée mondiale du tourisme. Et le 28 septembre, journée internationale de l'accès universel à l'information. Fin de cette émission que vous pouvez retrouver sur le site www.radiocapi.net. Merci de votre attention. Merci également à Charlie Louyeye qui en a assuré la coordination technique. Moi, je suis Babel Pongo-Mastimango et c'est avec un grand plaisir que je vous ai présenté cette émission produite, coordonnée et réalisée par Honoré Missinga Kalala. Merci de rester à l'écoute de la Radio de la Paix pour la suite de nos programmes. Toute l'équipe du magazine des Nations Unies vous fixe un nouveau rendez-vous dimanche prochain.